Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, que reste-t-il de Tiananmen ? Un homme seul face à un char, le char pivote pour tenter de le contourner, l'homme se déplace sur le côté pour l'en empêcher. À l'époque, les réseaux sociaux n'existent pas, mais la scène va devenir virale. Ce sera l'image des événements de Tiananmen. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée intervient pour mettre fin au mouvement entamé à la mi-avril. 7 semaines de manifestations à Pékin pour réclamer, après les réformes économiques, des réformes démocratiques. La répression est sanglante, plusieurs centaines de morts, le bilan exact n'a jamais pu être établi. Le sera-t-il un jour ? En Chine, en tout cas, ce 30e anniversaire est passé sous silence. Le pouvoir y veille, la société, elle, est passée à autre chose. Dans un éditorial publié ce jour, pourtant, le quotidien chinois de langue anglaise, Global Times, considéré comme proche du pouvoir, évoque néanmoins ce qui s'est passé 30 ans plus tôt, avec ces mots. Un incident qui a eu pour effet, dit l'éditorial, de grandement augmenter l'immunité de la Chine contre tout trouble politique. Alors, est-ce à dire que toute forme d'opposition a disparu dans le pays ? Et si tel n'est pas le cas, sous quelle forme se manifeste-t-elle désormais ? Que reste-t-il de Tiananmen ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Émilie Frenkel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris-Est Créteil, chercheuse au Largotech, qui est un laboratoire qui fait partie de cette université. Vous avez publié, c'était au PUF en 2014, Parler politique en Chine. Pour discuter avec vous, Chloé Froissart, bonsoir.
Bonsoir.
Maîtresse de conférence en sciences politiques au département d'études chinoises de l'université Rennes 2. Vous avez participé à l'ouvrage collectif La démocratie en Asie. Ça a été publié en 2015, aux éditions Philippe Piquier. Et puis notre troisième invité, Laure Guilmer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous étiez en Chine en 1989 pendant les événements de Tiananmen. Vous y êtes retourné pour essayer de retrouver les personnes que vous aviez rencontrées à l'époque et vous en avez tiré un récit, La Française de Tiananmen, aux éditions Ikari. Alors restons d'ailleurs 30 ans plus tôt, en 1989. Vous êtes donc en Chine, Laure Guilmer. Est-ce que vous y êtes allé comme journaliste précisément parce qu'il y avait ces événements ou c'est un petit peu le hasard qui fait que vous y étiez au moment où ces événements commencent ?
C'est un hasard puisque je pars en janvier et que les manifestations, les premières actions des étudiants commencent vers la mi-avril. Donc non, je n'ai pas anticipé cet événement. Il m'est tombé dessus à partir du mois d'avril par hasard.
Alors, faut peut-être rappeler brièvement, même si c'est un peu compliqué, ce qu'est la Chine en 1989, Émilie Frenkel. Évidemment, c'est un pays qui est très différent de celui d'aujourd'hui. Ça n'est pas la puissance économique qu'est la Chine en 2019.
En effet, c'est un pays très différent, mais c'est un moment assez intéressant parce que ça fait à peu près 10 ans que des réformes, une politique d'ouverture ont été lancées. Et il y a une très grande effervescence intellectuelle, culturelle. Et il se passe vraiment beaucoup de choses dans les années 80. On se remet de la révolution culturelle progressivement. Et c'est une Chine qui est très différente de la Chine de la révolution culturelle, mais pour répondre à votre question aussi de la Chine actuelle, une Chine bien sûr beaucoup moins développée, beaucoup plus pauvre, où on... Il y a une ouverture au marché, mais qui est encore assez limitée.
Et c'est peut-être cette ouverture au marché qui va faire espérer une partie de la population, notamment les étudiants, qu'il puisse y avoir ensuite une ouverture, qui serait une ouverture aux libertés publiques, Chloé Froissart.
Oui, en tout cas, le fait qu'il y avait un divorce manifeste entre des réformes économiques et les réformes politiques. On parlait beaucoup de réformes politiques à l'époque, notamment de séparation du parti et de l'État, mais ces réformes n'étaient pas encore effectives, et d'ailleurs c'est ce qui a produit un phénomène de corruption assez important. Contre lesquels s'élevaient en particulier les étudiants. C'était une des revendications du mouvement de 89 que de mettre fin à la corruption à travers l'instauration d'un état de droit. Donc, l'important était à ce moment-là de mettre les réformes sur un autre plan et il y avait un optimisme, un espoir dans l'avenir qu'on n'a jamais retrouvé depuis.
Alors voilà, comme pour tous les grands événements, il y a bien sûr un contexte qui est le plus déterminant, mais il y a toujours un déclencheur et ce déclencheur, ça va être la mort le 15 avril 1989 de Hu Yaobang, qui est l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois, et ses funérailles. Alors c'est quelqu'un qui est très populaire, notamment chez les étudiants, parce que il se bien plus tôt, il est considéré comme réformiste. Une semaine plus tard, il y a ses funérailles qui drainent une foule importante. Écoutez comment on en parlait à l'époque sur France Inter.
Le calme règne pour l'instant dans le centre de Pékin, paralysé ce matin pendant 4 heures. Les policiers ont canalisé un flot de plusieurs milliers de personnes autour de la place Tiananmen. Une foule venue spécialement pour les funérailles de Hu Yaobang, l'ex-secrétaire général du Parti communiste chinois, démis de ses fonctions en 87, un personnage transformé en symbole de la démocratie. Après 5 jours de manifestations ininterrompues, les étudiants avaient été mis en garde contre toute nouvelle agitation politique. Ils devaient dégager la place Tiananmen avant le début de la cérémonie. Mais quelques 20 000 irréductibles sont restés sur place, gardés à distance par un cordon de police. Les obsèques ont duré 30 minutes, ils ont été retransmis par haut-parleur, mais la plupart des Pékinois ont pu suivre l'événement à la radio et à la télévision nationale. Les caméras ont montré les officiels exclusivement à l'intérieur du Palais du Peuple.
Voilà, c'était le 22 avril 1989. Laure Guilmer, vous avez dû reconnaître cette voix puisque c'était la vôtre.
Tout à fait.
Vous vous souvenez de ce jour en particulier, de ces funérailles?
Oui. Je les ai regardées à la télévision puisqu'elles étaient retransmises, mais surtout j'étais sur la place puisque la place c'est l'endroit où qui était accessible à tous. Donc effectivement, j'ai vu les premières gerbes qui sont arrivées, qui ont été montées au centre de la place, sur le monument aux héros du peuple, et de plus en plus de gerbes et de plus en plus d'étudiants. Et c'est vraiment le début qui marque l'envie des étudiants de tous venir place Tiananmen.
Et pas à ce moment-là, c'est essentiellement festif ou bien il commence déjà à y avoir...
C'est pas festif, c'est quand même une commémoration pour un homme qui avait l'image d'un réformiste et qui était un peu cité comme modèle par les étudiants. Il le connaissait bien, il savait ce qu'il avait été, il avait été limogé 2 ans plus tôt, donc c'est un symbole. Il profite de l'occasion de la cérémonie pour marquer le coup et être à l'extérieur et montrer « nous, c'est notre modèle ». Et regardez ce qu'on est capable de faire, de lui apporter des gerbes au milieu de la place Tiananmen. Incroyable.
Ouais. Assez vite, ce sont des manifestations qui vont prendre de l'ampleur et le pouvoir va commencer à s'inquiéter. Il y a notamment Deng Xiaoping qui, 3 jours après, affirme que le mouvement veut renverser le Parti communiste chinois. À quel moment est-ce que ça passe d'un mouvement revendicatif contre la corruption, pour des libertés démocratiques, à quelque chose qui va suffisamment inquiéter le pouvoir, disons Chloé Froissart, pour que la répression commence? Parce qu'elle ne commence pas uniquement dans la nuit du 3 au 4 juin.
Le tournant, ça a été l'éditorial du quotidien du Peuple du 26 avril, qui dénonce le mouvement comme anti-parti. Ce qu'ont toujours récusé les étudiants, qui de fait ne disaient pas le Parti communiste et qui s'adressaient au parti, au contraire, pour l'inciter à faire des réformes pour maintenir sa propre légitimité et qui était plutôt dans une perspective constructive. Mais ce que ne supportait pas le parti, c'est que cette jeunesse ose quelque part se dresser en face de lui et demander un droit de parole d'égal à égal. Ça faisait d'ailleurs partie des revendications des étudiants.
Donc quand il y a cet éditorial du quotidien du peuple qui est le journal officiel, enfin c'est,
voilà, c'est la
je ne sais pas s'il faut
parti.
Faire l'équivalent, enfin, c'est un peu comme la Pravda en URSS.
Voilà. C'est ce qui a déclenché la grève de la faim chez les étudiants en protestation contre cette lecture du mouvement. Donc ce qui est important de retenir là-dedans, je pense, c'est que les étudiants eux-mêmes ne se voyaient pas comme dissidents. Hein, et que cette étiquette leur a été collée par le pouvoir, qui a aussi désigné ce mouvement comme des troubles anti-parti contre le régime, et ce qu'a toujours mis en cause, ce qu'ont mis en cause les étudiants.
À l'origine, il n'y a pas de volonté, Émilie Frenkel, enfin même après, hein, de renverser le pouvoir. On parle beaucoup des étudiants, les intellectuels chinois, est-ce qu'ils sont présents justement dans ces mouvements?
Alors, il y a pas mal d'intellectuels, enfin de professeurs, d'éditeurs qui assistent à tout ça, qui conseillent les étudiants, mais qui sont pour la plupart quand même un peu plus prudents. Et assez surpris en fait par l'ampleur des manifestations, par vraiment la volonté, la détermination des étudiants. Mais bien sûr, ils sont entourés de personnalités plus âgées, plus expérimentées également.
qui soutiennent du coup la volonté de réforme. Je vous voyais acquiescer au fait quand Chloé Froissart disait ce sont pas des dissidents. D'ailleurs, dissident, c'est plutôt pour nommer des gens que l'on veut déconsidérer, qu'on leur veut démonétiser d'une certaine manière, Émilie Frenkel.
Oui, c'est vrai. Mais je suis tout à fait d'accord avec Chloé. C'est-à-dire que ce sont vraiment des étudiants même qui viennent, qui essaient d'entrer en dialogue, qui attendent pendant des heures qu'on leur octroie, qu'on leur ouvre une porte en fait, et qu'un débat, qu'une discussion puisse avoir lieu. Certains vont ensuite, suite à cet éditorial en fait, qui vraiment déclenche la colère parmi certains d'entre eux, il y en a à qui on va reprocher d'avoir été justement trop... trop servile en fait, d'avoir presque frappé leur front devant l'empereur en fait pour réclamer une audience. Donc on n'est pas du tout dans une manifestation d'opposition frontale au pouvoir.
Claire Froissart.
Et c'est d'ailleurs ce que reprochait Liu Xiaobo, qui était aux États-Unis à l'époque et qui est revenu soutenir les étudiants sur la place
prix Nobel de la paix.
Prix Nobel de la paix.
Qui est mort en 2017.
Voilà, exactement. Qui en gros disait aux étudiants, mais vous restez dans le même schéma de l'empereur, vous adressez au parti comme si ce serait l'empereur, et qu'il les jugeait pas assez radicaux avant d'essayer d'apaiser le mouvement et d'aider les étudiants à fuir la place juste avant la répression. Mais c'est pour aller dans ce sens. Ils n'étaient pas vraiment... c'était pas des dissidents, c'était pas des antipartis, c'était pas des antirégimes.
Alors c'est toujours justement intéressant d'avoir ce recul pour revoir les événements d'une époque à la lumière des travaux notamment historiques, à condition que ces travaux aient lieu. Est-ce que 30 ans plus tard, c'est un événement dont on parle en Chine, Laure Guilmer, vous qui y étiez il y a pas très longtemps, c'était il y a quelques semaines, vous y étiez début 2019. Hein.
Voilà, mais j'ai aussi interrogé un ami ce matin pour lui demander alors quelle ambiance. Il me dit absolument tranquille, rien, absolument rien dans les médias, à part la déclaration du ministre de la Défense hier qui disait que c'était une attitude correcte d'avoir envoyé l'armée. Donc non, on ne parle pas de ça, c'est une amnésie collective. Donc on en parle, mais de manière privée, avec des gens qu'on connaît, mais il ne faut pas que ça sorte de la sphère privée. De toute façon, même s'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux, ça risque d'être effacé en quelques heures. Donc, il n'y a pas de commémoration, bien sûr, et il n'y a pas de... Cet événement n'existe pas.
Est-ce que cet événement n'existe pas parce que certains ne savent même pas qu'il a existé, Laure Guilmer?
Bien sûr, les jeunes de 20 ans, les étudiants, ne savent pas du tout, ne l'étudient pas à l'école, ne l'ont pas peut-être entendu parler de leurs parents, parce que les parents ont peut-être peur. Donc il y a une information totale sur le sujet. J'ai eu une étudiante de 20 ans, là, en février, elle a une version peut-être officielle d'il y a 30 ans, qui dit les étudiants ont tué des soldats.
Oui, voilà
ce qu'elle retient de Tiananmen.
J'ai retenu, c'est une étudiante qui vous accompagne, qui s'appelle Fang, et qui dit ceci: les étudiants 89 n'avaient aucune expérience politique, ils ont été manipulés, ils ont semé le chaos et ils ont tué des soldats. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être ce récit-là qui est fait des événements de Tiananmen.
Mais il était fait déjà en 89 dans les images de la télévision. Donc effectivement, les gens n'ont vu que des soldats tués ou blessés sur leur lit d'hôpital.
Chloé Froissart.
Oui, c'est tout à fait c'est le discours officiel qui est tenu, à savoir qu'il y a eu plus de morts parmi les soldats que parmi la population, et que les soldats ont protégé en quelque sorte la société, le régime, etc. Ce qui est à mon avis important de dire, c'est que cette mémoire, c'est un combat. Hein. Le ministre de la Défense s'est exprimé hier depuis Singapour et ça n'a pas été relayé dans les médias chinois, évidemment, on n'en parle pas du tout. Même pour condamner le mouvement, c'est une parole qui est... Tiananmen est complètement effacée de la mémoire. Et à tel point d'ailleurs, ce qui est assez piquant, c'est qu'il y a évidemment une censure, c'est l'événement sans doute le plus censuré en Chine, et à tel point que parfois il y a des choses qui sortent dans la presse sur Tiananmen. Pourquoi? Eh bien parce que les journalistes, les censeurs ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé. Donc ils savent pas ce que c'est que Tiananmen. Et donc parfois il y a une référence qui sort comme ça. Mais il y a quand même, je tiens à le dire, des gens qui essayent de maintenir cette mémoire. en tout cas parmi ceux qui ont participé au mouvement, qui avaient l'âge d'être, enfin qui étaient contemporains du mouvement, et sur WeChat, donc sur la plateforme de tweet chinoise, il y a des formes de commémoration qui passent pas par les mots, mais par exemple on publie une image avec une bougie. Donc moi j'ai essayé de publier aussi ma bougie aujourd'hui, elle a mis 2 minutes 30 à être postée sur la plateforme, mais elle est quand même passée.
Voilà, parce que dans tous les régimes autoritaires, il y a toujours des moyens que peuvent trouver justement les populations pour essayer de contourner la censure. Pour quelle raison, Émilie Frenkel, le pouvoir chinois, aujourd'hui, 30 ans après, refuse à ce point que l'on puisse parler de ces événements? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'étaient évidemment pas en place il y a 30 ans, donc ne peuvent pas être tenus responsables de la répression. C'est quoi? C'est la peur que peut-être que ce qui s'est passé avec les manifestations donne des idées aux générations actuelles?
C'est difficile de savoir exactement toutes leurs raisons, hein, parce que c'est vraiment... leurs discussions ne nous sont pas accessibles. Il me semble qu'une des raisons principales, c'est que, en fait, il y a eu, ça a été vraiment un événement extrêmement traumatique, y compris pour les dirigeants. Et je pense pas qu'il y ait un réel consensus non plus au sein des dirigeants. Donc même ça pourrait aussi être vraiment source de tensions, voire de divisions très graves au sein du parti. Alors bien sûr, en ayant en tête les conséquences en fait d'une ouverture de la parole à ce sujet. Je voudrais simplement ajouter quelque chose en ce qui concerne cette invisibilité, ce silence, le fait que les jeunes générations n'ont pas entendu parler du 4 juin 1989 et que donc, comme le disait justement Chloé Froissart, il y a parfois, en fait, les jeunes qui sont censés censurer les réseaux sociaux parce que c'est très décentralisé ou même certains journaux, en fait, ne laissent passer en fait des informations parce qu'ils ne détectent pas le message, ils ne le comprennent pas. Je voulais dire que ça donne lieu à, bien sûr, des anciens militants, des familles qui ont été touchées par la répression, qui, eux, luttent activement. Mais ça donne aussi lieu à un échange de souvenirs privés au sein des familles, entre étudiants, entre, bien sûr, personnes qui ont vécu aussi ces événements. Et c'est quelque chose qui, je trouve pas tout à fait juste, en fait, de dire de façon un peu condescendante qu'en Chine, on n'en parle pas, les jeunes ne s'intéressent pas, ne s'y intéressent pas, ne cherchent pas. On a beaucoup d'étudiants chinois en France, dans nos universités, et on se dit, mais enfin, comment ça, une fois qu'ils sont chez nous, comment se fait-il? Voilà, comment se fait-il qu'ils n'aillent pas chercher l'information, etc. Alors certes, ils n'y vont pas tous, mais maintenant c'est quand même très difficile pour nous, étrangers, d'avoir accès à ce qu'ils savent réellement, ce qu'ils se disent entre eux. Je trouve ça un petit peu condescendant et moralisateur de toujours dire que maintenant les jeunes s'en fichent, ils ne veulent pas savoir et ça a très bien marché cette chape de plomb.
Est-ce que vous, Laure Guilmer, vous avez senti peut-être une distance, même si c'est des gens que vous avez côtoyés 30 ans plus tôt, avec qui vous avez noué des liens d'amitié, mais en revenant 30 ans plus tard et en parlant notamment, parce que c'était pas votre seul sujet de conversation, ce que vous racontez dans le livre, mais de ces événements de Tiananmen, vous avez senti quoi, une prudence? En tout cas, la volonté peut-être de ne pas en parler n'importe où, n'importe comment. Comment est-ce que ça s'est passé?
Oui, extrême prudence, ne pas... Toujours la sphère... Dès qu'on sort de la sphère privée, ça devient dangereux. Même des gens pourraient perdre leur travail, perdre leur retraite, m'a-t-on dit même. Quand même, il y a eu... Une des étudiantes qui avait 20 ans m'a dit que c'était un moment enthousiasmant et à part dans ma vie d'étudiante. Donc ça m'a rassurée. Je me dis, quand même, elle a gardé ce côté positif. Mais elle a dit aussi, je ne veux pas voir d'image de violence parce que je ne veux pas garder cette image du mouvement. Donc cette femme de 50 ans qui fait partie de la classe moyenne, bon salaire, etc., elle le met vraiment à part dans sa vie personnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'elle va évoquer, même pas avec son mari. J'étais étonnée, son mari avait fait la grève de la faim pendant une semaine, place Tiananmen. J'aborde le mari comme ça, plutôt légèrement. Je dis, est-ce que tu peux me raconter ta semaine de la grève de la faim? Et il a dit, c'est du passé. Il m'a tourné le dos et il est passé autre chose. Alors j'étais un peu vexée parce que je me dis, quoi? Je suis là. Il n'a pas envie de me raconter sa semaine de grève de la faim, place Tiananmen. Il a dû vivre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Est-ce que c'était pour suivre des copains? Est-ce qu'il a vécu ça de manière difficile? Parce qu'il a été emmené à l'hôpital ensuite. Donc j'étais un peu déçue. Je me suis dit, bon, ma copine veut bien m'en parler, mais lui, non.
Mais c'est seulement de la crainte pour vous, Laure Guilmer, ou c'est peut-être aussi le fait de vouloir passer à autre chose, parce que ça a marqué un temps de la vie de ces manifestants. Alors, évidemment, vous ne les avez pas tous rencontrés, hein, c'est ce que vous connaissiez à l'époque, mais aussi peut-être le fait de se dire, bah voilà, c'était il y a 30 ans, on est passé à autre chose, on a fait notre carrière, on a bâti une famille, et voilà, et puis la vie continue, et on n'est plus peut-être aussi investi politiquement, par exemple, qu'on pouvait l'être quand on était plus jeune.
Bah oui, ils ont 50 ans, donc ils ont moins d'idées peut-être à défendre qu'à 20 ans. Ils ont ce qu'il faut, ils ont une vie, une résidence secondaire, un bon salaire, deux voitures. Voilà, ils n'ont pas envie de se préoccuper d'une préoccupation plutôt d'une occidentale aussi qui vient leur rappeler. Je voulais pas être leur mauvaise conscience, je voulais simplement qu'on rappelle nos souvenirs ensemble. Moi, c'était parce que ça avait été tellement fort pour moi, je voulais qu'ils repartagent ça avec moi. Mais bon, j'étais un peu déçue. Enfin, avec elle, ça allait, mais avec plusieurs, j'ai eu l'impression de leur arracher les verres du nez.
Alors ceux qui pourraient ou celles qui pourraient jouer le rôle de mauvaise conscience justement pour la société chinoise, est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'ils sont devenus, Chloé Froissart, c'est-à-dire les leaders de ce mouvement? Beaucoup ont été emprisonnés. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de du non
ah si si le ah, cas de Liu Xiaobo. Si vous voulez, les leaders étaient avant tout des leaders étudiants. Et ces leaders-là, ils ont, comme ils étaient aussi beaucoup les fils et les filles des hauts cadres dirigeants, ce qu'il faut bien le dire, ils ont eu la possibilité, la France, notamment grâce à la France et à la coopération entre Hong Kong et la France, de quitter le territoire chinois. Et beaucoup se sont d'abord retrouvés à Paris, où François Mitterrand avait, place de la Bastille, consacré la cérémonie du 14 juillet à un défilé en hommage aux étudiants de la place Tiananmen. Beaucoup, malheureusement, ensuite sont partis aux États-Unis. Mais si vous voulez, beaucoup de personnes ont été emprisonnées, mais plus, si vous voulez, les anonymes. Parce que c'est pas qu'un mouvement étudiant. Il y a énormément de quidam, de citoyens lambda qui ont participé à ce mouvement, qui n'a pas été qu'un mouvement intellectuel et qu'un mouvement étudiant. Et ce sont ceux-là, si vous voulez, qui ont payé le prix le plus fort. Et ce que rappelle notamment Liao Yiwu dans son dernier livre, Des balles et de l'opium, vous savez sans doute que la dernière personne qui a été emprisonnée après 89 en est sortie en 2016, et c'était un ouvrier. Je voudrais juste revenir un tout petit peu rapidement sur cette idée. Il n'y a pas aucun jugement moral, si vous voulez. Et là, je suis pas d'accord avec toi, Émilie. C'est un constat factuel. Le régime chinois a réussi cette entreprise d'amnésie. Et je le vois avec mes étudiants, si vous voulez, certains profitent évidemment du fait qu'ils sont en France pour se documenter, mais quand j'essaye d'en parler en cours, j'ai au moins la moitié des étudiants chinois qui ne veulent pas savoir et qui disent c'est tabou, et qui ferment les écoutilles et qui ne veulent pas savoir, aussi sans doute par peur, parce qu'ils vont rentrer chez eux et qu'ils sont suivis, y compris à l'étranger, par le Parti communiste. Ce qu'ils font et ce qu'ils apprennent en cours est su par le Parti communiste, et ils savent très bien que s'ils veulent rentrer chez eux en Chine, il y a un risque à prendre, à ouvrir cette boîte de Pandore. Par ailleurs, dernière précision par rapport à ce qu'a dit Émilie, aujourd'hui, au sein du parti, il y a un consensus sur Tiananmen. Les derniers dirigeants qui ont soutenu le mouvement, à savoir Cao Zhenyang est mort en 2005, Bao Trong, son secrétaire, est mort, Li Jue, l'ancien secrétaire de Mao, est mort l'année dernière. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui soutient, ou en tout cas ouvertement, ce mouvement.
Émilie Frenkel ?
Oui, ou ouvertement, bien sûr. Maintenant, voilà, il y a quasiment 90 millions de membres du parti. C'est quand même difficile de savoir, même c'est difficile de s'imaginer qu'ils sont tous d'accord. Bien sûr, ils n'ont pas du tout la même, c'est très hiérarchique, ils n'ont pas du tout le même pouvoir, mais il me semble quand même assez évident qu'il ne peut pas y avoir un consensus complet à ce propos.
Est-ce qu'il y a aussi peut-être l'idée que bah, on est passé à autre chose, la société chinoise a évolué et qu'il y a un modèle qui a fini par se développer, qui peut peut-être satisfaire, alors, évidemment pas tout le monde. Aucun système ne satisfait tout le monde, mais enfin, en tout cas une majorité, puisque vous évoquiez, Chloé Froissart, Liao Yiwu, qui est un poète, qui a été emprisonné pour avoir écrit justement un long poème qui s'appelait Massacre, je crois, c'est ça, sur les événements de Tiananmen, et qui dit, ceci c'est dans une interview très récente au journal La Croix, la stratégie de Xi Jinping est d'asservir la population à travers l'appétit de consommation. Les bourreaux sont en train de triompher, mais asservir la population à travers l'appétit de consommation, est-ce que ça pourrait caractériser aujourd'hui une grande partie de la société chinoise, pour vous, Émilie Frenkel, et ce qui expliquerait le fait que peut-être l'opposition politique est relativement discrète. On va y venir justement sur la nature de cette opposition aujourd'hui.
C'est important de parler de la situation actuelle, mais on en a quand même 30 ans, entre 89 et maintenant, donc ça, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Xi Jinping. Mais ce qui me semble assez évident, c'est qu'après 2-3 années de froid glacial et même d'arrêt des réformes, y compris un grand frein sur le plan économique. Donc il y a, les réformes sont à nouveau engagées et effectivement, on mise vraiment sur une ouverture encore plus grande au marché, à l'entrepreneuriat, beaucoup parmi les intellectuels, justement, et ces professeurs qui soutenaient leurs étudiants qui étaient sur la place, se disent, bon, bah voilà, c'est fini, on ne prend plus la parole dans l'espace public, c'est trop dangereux et puis ça mène à rien. Et se lance dans les affaires, ou alors s'intéresse à des sujets très scientifiques, et une professionnalisation en fait du monde intellectuel d'un certain côté.
Ça se fait quand même simultanément, Émilie Frenkel, avec un verrouillage du côté des libertés publiques. Depuis que Xi Jinping est au pouvoir, on ne peut pas dire que ça soit allé vers une amélioration du point de vue des libertés.
Non, bien sûr. Et effectivement, ce qu'on dit, c'est que depuis, on va dire, 2013-2014, on en revient à des répressions, à une sorte d'autocensure aussi, de censure directe et d'autocensure qui rappelle effectivement les années qui ont suivi 89. Mais dans les années qui... il y a quand même eu 25 ans entre ces deux périodes, il y avait toujours des répressions, mais globalement, même si on avait, c'est quelque chose qui me semble important d'évoquer, il y avait eu une sorte de désespoir, comme disait Chloé, et puis aussi cette idée qu'il fallait renoncer à la révolution et au radicalisme, et qu'il fallait être plus pragmatique, plus prudent, et avancer dans des réformes comme ça, graduelles. On attendait une amélioration, on avait l'impression que si on était suffisamment patient, même sur le plan des libertés et même sur le plan politique, il y avait quand même des améliorations à attendre. Et effectivement, depuis Xi Jinping, ce maigre espoir-là tend à disparaître.
Et finalement, quand je citais en ouverture d'émission cet éditorial publié aujourd'hui dans Global Times, donc c'est un journal chinois, en langue anglaise, qui est donc pas pour un public a priori à l'intérieur de la Chine. Et je recite quand même cet extrait. En vaccinant la société chinoise, l'incident de Tiananmen, a augmenté grandement l'immunité de la Chine contre tout trouble politique. Laure Guilmer.
Trouble politique, comment faire? Y a pas de raison. Enfin, les réseaux sociaux sont très contrôlés. Les plus préparés à cette contestation sont à l'étranger. On a dit aux États-Unis, il y en a à Berlin. Comment organiser cette contestation possible sur place? Je vois pas vraiment comment c'est possible, puisque dès qu'on bouge le petit doigt ou dès qu'on veut s'exprimer, je pense qu'on risque d'aller en prison, tout simplement.
On parle beaucoup aujourd'hui d'une société de surveillance avec un contrôle social extrêmement fort. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, alors je sais pas sous quel statut vous y étiez quand vous y êtes retourné, touriste, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti?
J'ai discuté avec les Chinois, effectivement, la reconnaissance faciale, supposé que vous traversiez, vous fassiez quelque chose qui est jugé incroyable, correct, vous allez être fiché, vous n'allez même plus pouvoir prendre vos billets d'avion ou de train sur une machine électronique parce qu'on vous serait repéré comme un mouton au noir. Enfin, ça va très 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 loin dans la vie privée des gens. Et de toute façon, c'est public, donc les gens savent, ils sont très prudents et ils disent, si je fais ça, voilà ce que ça va me coûter très cher.
Est-ce que ça veut dire pour autant qu'aujourd'hui, en Chine, on ne manifeste pas, qu'il n'y a pas des mouvements, alors si ce n'est pour des revendications d'ordre politique, mais peut-être des revendications d'ordre social qui existent, Chloé Froissart, je crois. Enfin, vous avez notamment travaillé sur la question des revendications dans le domaine de l'environnement.
L'environnement et du travail.
Il y a beaucoup de mouvements sociaux. Alors, en tout cas, il y en avait beaucoup jusqu'à une période récente.
Absolument, non. Il y a beaucoup de protestations en Chine toujours maintenant. C'est un régime qui fonctionne aussi sur la protestation, mais bon, c'est aussi une autre question. Mais si vous voulez, ce qui est important de retenir, c'est que il y a énormément d'ONG, enfin d'organisations sociales qui sont développées depuis la fin des années 90 en Chine, et dont beaucoup, si vous voulez, faisaient le lien entre les laissés pour compte du régime, les personnes discriminées, les ouvriers, les gens expulsés, les gens victimes de discrimination, etc., les minorités sexuelles et le pouvoir, et avait un rôle de tampon, en quelque sorte, et essayer de négocier une plus grande flexibilité et une plus grande ouverture du régime pour faire progresser les droits de ces populations à l'intérieur du système autoritaire. Et depuis 2013-2014, si vous voulez, l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir et son affirmation au pouvoir, il y a eu une reprise en main extrêmement importante de la société civile. Et ça, c'est d'autant plus ennuyeux, si vous voulez, c'est que une grande partie du dialogue social qui avait lieu avant n'est plus possible. Et on sent une sorte de... Bon, alors évidemment, il y a certaines personnes qui travaillent dans les ONG qui acceptent de collaborer avec le pouvoir et d'aider le parti à gouverner et d'agir comme une auxiliaire du parti, si vous voulez. Mais il y en a d'autres qui ont subi cette répression, qui tentent, si vous voulez, à se radicaliser. Parce que si l'idéal démocratique est... a été de plus en plus marginalisé. Il y a eu un tournant dont on n'a pas parlé, dont on pourrait peut-être parler ensuite, c'est la charte 08, hein, 2008. Si vous voulez, il y avait quand même une forte volonté d'œuvrer contre les inégalités, pour une justice sociale, sans parler du régime politique, qui était incarné par ces ONG. Et là, avec cette répression, ces ONG qui avaient quand même, qui étaient porteuses d'un certain espoir, parce qu'elles avaient l'impression d'être, d'avoir un rôle et d'être, si vous voulez, d'avoir une efficacité dans ce système, eh bien, elles le sont de moins en moins. Et aujourd'hui, ça alimente en quelque sorte une forme de radicalisation et d'une position anti-système.
Émilie Frenkel, une société civile, quel que soit le régime dans lequel elle évolue, elle a besoin à un moment de respirer. Est-ce qu'il y a quand même quelques soupapes qui existent? Quelques lieux, quelques revendications que le pouvoir chinois laisse s'exprimer pour justement permettre à cette société de ne pas se sentir complètement enfermée justement dans ce régime très autoritaire.
Alors, deux choses me viennent en tête. La première, c'est que même si Internet est extrêmement contrôlé, c'est quand même un très grand espace de liberté. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre espace où on peut discuter d'autant de choses avec autant de personnes en Chine. Donc, on parle toujours de la censure et elle est effectivement impitoyable. Mais en même temps, malgré tout, il y a énormément de choses qui filtrent. Il y a énormément de choses qui passent. Avant que certains sujets soient... Bien sûr, il y a des choses qui sont déjà sur les listes. Il y a déjà des algorithmes qui vont empêcher certains posts d'être publiés parce qu'il y a des mots-clés qui y sont, comme par exemple Tiananmen ou 4 juin. Mais il y a d'autres sujets qui, parce qu'ils vont vraiment mobiliser et vont créer des discussions extrêmement intenses en ligne, vont au bout d'un moment être censurés. Mais avant ça... il y a quand même des choses qui se disent. Et le deuxième point, c'est que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, donc, on le sait que la Chine est un immense pays, mais c'est quand même très compliqué pour le gouvernement central et pour les hauts dirigeants de savoir ce qui se passe partout, y compris de connaître en fait les urgences, les sources de très très grands mécontentements qui peuvent aboutir sur des mouvements sociaux, etc. Et si cette censure est vraiment systématique et absolument implacable, à ce moment-là, eux n'ont plus accès à cette information. Donc, il y a des soupapes. Donc il y a Internet, il y a aussi quelques lieux au niveau local où on peut avoir des assemblées, où les gens peuvent s'exprimer, de façon toujours contrôlée. Mais ces lieux sont menacés, mais ils existent encore pour l'instant, parce qu'il y a quand même cette clarté, cette lucidité qui est qu'on ne peut pas diriger un pays avec 1,4 milliard d'habitants sans savoir en fait ce qui s'y passe.
Alors il y a une autre forme de soupape, même si elle ne concerne pas tous les habitants, tous les Chinois, mais c'est le tourisme. C'est-à-dire il y a beaucoup aussi de Chinois qui voyagent. Alors bien sûr, ce n'est pas les 1,4 milliard de Chinois, c'est sans doute réservé à des gens qui ont les moyens, bien sûr, de le faire. Mais en tout cas, est-ce que c'est là peut-être quand même une des nouveautés par rapport à il y a 30 ans, Laure Guilmer, c'est-à-dire d'avoir aussi une population qui connaît mieux peut-être le monde dans lequel elle évolue. La Chine est beaucoup moins fermée sur elle-même qu'elle ne l'était en 1989.
Oui, j'étais très surprise de cet appétit de voyage. Alors, à la fois à l'intérieur de la Chine, mais surtout à l'extérieur. Et ils n'hésitent pas à aller 3 jours en Thaïlande pour le nouvel an chinois. Et l'Europe, c'est une semaine pour eux. Donc il y a quand même des choses qui passent dans leur champ de vision quand même. Et un étudiant de l'université de Pékin me disait, oui, je connais très bien tous les régimes politiques, j'ai étudié le marxisme, les régimes démocratiques aux États-Unis. Il était un peu frimeur par rapport à tout ce qu'il connaissait.
Il conclut d'ailleurs en disant, l'idéologie s'est dépassée et inintéressant.
Oui.
C'est le même. Hein.
C'est un peu triste pour un jeune homme de 31 ans qui étudie le commerce international et qui aura certainement fera une très belle carrière. Mais je voudrais dire quand même...
Quand on fait du commerce international, justement, l'idéologie, oui. Ça passe peut-être au second plan.
Oui, mais il a étudié la communication et le journalisme aussi avant. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que vous dites qu'il y a quand même des jeunes au sein du Parti communiste, enfin une jeune génération qui ne va peut-être pas tout le temps se laisser marcher sur les pieds par... la vieille génération. Donc, j'ai eu deux fois un espoir, enfin, une déclaration un peu pleine d'espoir de personnes qui ont 50 et 60 ans, me dit, ne t'inquiète pas, Catherine, un jour, la vérité éclatera sur Tiananmen, et un jour, tu verras, les jeunes communistes bousculeront un peu et les vieux, entre guillemets, et ce sont eux qui feront les réformes. Alors, bon, voilà, c'est un petit message d'espoir, parce que ce soir, c'est un sombre anniversaire, mais espérons peut-être qu'il y a, au sein des communistes, il y a quand même, vous avez dit 90 millions, peut-être pas 90 millions de personnes qui marchent droit en se mettant au garde à vous, quoi.
Je reviens juste à un instant, et ce sera même pour terminer, sur les manifestations, ou en tout cas la prise en compte des questions environnementales. Aujourd'hui, la Chine, sur le plan international, Chloé Froissart, elle ambitionne d'être assez exemplaire en la matière. Or, il y a eu quand même un certain nombre de manifestations, là aussi de mouvements sociaux en Chine pour aller dans ce sens. Est-ce que ça se fait justement avec, on va dire, l'accord du régime? C'est-à-dire finalement, il y a aussi l'autorisation de manifester sur ces questions-là parce que ça va dans le sens de ce que veut montrer la Chine à l'extérieur?
Non, il n'y a pas d'autorisation de manifester, quoi qu'il en soit. Non, mais en revanche, dans le domaine environnemental, c'est sans doute le seul domaine de la société civile qui est à peu près préservé, qui n'a pas été la victime de cette répression extrêmement importante. Il y a cette volonté justement de... parce que la protection de l'environnement correspond à une priorité du pouvoir, de collaborer avec les ONG pour tenter de développer une forme de participation du peuple à la prise en compte des problèmes environnementaux, le monitoring des cadres locaux et des entreprises qui ne respectent pas les standards environnementaux, etc., etc. Donc là, si vous voulez, il y a cette forme de participation politique, politiquement correcte qui est encouragée, tolérée, si ce n'est encouragée par le pouvoir. Pour revenir sur la question de l'idéologie, en revanche, elle se manifeste beaucoup plus chez les étudiants dans leur solidarité avec les ouvriers. Et il y a, par exemple, une nouvelle génération de marxistes parmi les étudiants qui soutiennent les grèves d'ouvriers en Chine. En particulier, il y a eu une grève très symbolique l'été dernier à Shenzhen. Et là, on voit que, si vous voulez, le Parti communiste est dépassé sur sa gauche et que la jeunesse remet en cause le mensonge du pouvoir en revenant aux sources du marxisme même.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Émilie Frenkel, Chloé Froissart et Laure Guilmer. Je rappelle, Laure Guilmer, parce que ça vient tout juste de sortir, La Française de Tiananmen, c'est aux éditions Ikari. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Cyril Marchand, émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Cette émission, vous pouvez la réécouter, la télécharger où que vous soyez, Toulouse, Monaco, Beyrouth, Villejuif, où vous voulez. Arnaud Laporte, vous pouvez le faire également.
Oui, dans le monde entier.
Dans le monde entier, absolument, Arnaud. Ce soir, on parle de théâtre.
On parle de théâtre.
Dans la dispute.
Voilà, je vais redonner le programme dans un instant. Je préfère plutôt connaître la question du grain à moudre de demain.
Faut-il un tribunal spécial pour juger les terroristes?
Bon, on sera à l'écoute à 18h20. Il est 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.